Bon, je prendrai ce micro alors, je bougerai un petit peu moins. C'est un immense privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez les salutations de notre église de Villeurbanne à Lyon. Et dans les Écritures, c'est écrit qu'on s'instruit les uns et les autres par le chant. Et c'est vrai que moi, quand je visite des assemblées, j'aime bien des fois juste écouter et être instruit par la louange de l'assemblée.
Ouais, on va bouger.
J'aime bien être instruit juste de voir les visages. Enfin, je sais, il y en a plein qui passent par la souffrance, même quand on ne lève pas la main, par des épreuves, par des temps difficiles. Et de voir des gens qui expriment la louange en Dieu, d'entendre les voix qui expriment la louange en Dieu, c'est un encouragement. Et ce matin, vous m'avez instruit. Et ben maintenant, on va être dans la parole. Mais c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Alors, vous avez vu la photo ? Les saumons atlantiques. Moi, j'aime bien les merveilles de la nature. Et c'est vrai que les saumons atlantiques, ils ont un cycle de migration qui est fascinant. Après avoir passé 1 ou 2 ans en mer, les adultes effectuent une longue migration vers le lieu où ils sont nés. Après 1 ou 2 ans, ils vont revenir, et puis ils vont revenir dans les eaux douces, et ils vont remonter des fois sur des dizaines de kilomètres, des fois sur des centaines de kilomètres, pour revenir aux zones de frayères situées en amont, là où ils sont nés. Pour pouvoir se multiplier, faire des disciples, enfin des bébés, les saumons doivent nager à contre-courant. Et pour nager à contre-courant, ça demande une énergie colossale. Souvent même, les saumons vont arrêter de manger pendant toute la durée de la période de la montée pour que chaque cellule de leur corps, chaque centimètre carré d'énergie, tout soit donné pour pouvoir accomplir ce but de monter la rivière et de pouvoir se multiplier. Et il y a un terme biologique vraiment intéressant qui définit les saumons qui ne montent pas la rivière. Vous savez comment on les appelle, les saumons qui descendent plutôt que monter ? Il y a un terme biologique, ouais, mort. Ils sont crevés. Le saumon qui ne remonte pas contre courant, c'est le saumon qui est mort. Et dans la foi chrétienne, c'est un petit peu la même chose. On est dans un monde où ça demande une énergie colossale de servir Dieu, parce que tout ce qu'on fait, c'est à contre-courant. Le monde ne pense pas comme Dieu pense, le monde n'agit pas comme Dieu veut qu'on agisse, le monde n'aime pas comme Dieu veut qu'on aime, et constamment, on doit aller à contre-courant pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Soit on va à contre-courant et on combat et on continue de combattre cette course pour arriver jusqu'au bout, ou soit finalement, ben, on arrête de combattre et on se fait emporter par le courant. Alors bien sûr, la course du croyant n'est pas facile. Paul décrit cette course en 2 Timothée, sa dernière lettre avant de mourir. Il va parler de sa vie comme une libation. Ce n'est pas un terme qu'on utilise tous les jours, je sais, mais libation, c'était un sacrifice liquide. Et moi, j'aime beaucoup cette image. Souvent, c'était juste un verre de vin qu'on déversait sur le sacrifice principal qui était brûlé. Et j'aime bien cette image parce que Paul se dit, moi, je ne suis pas le sacrifice principal, c'est Christ. Et moi, je me donne jusqu'à la dernière goutte pour mettre en honneur ce que Christ a fait. Et c'est comme ça que Paul a vécu sa vie jusqu'à la dernière goutte. Il a combattu avec toute son énergie pour faire l'œuvre de Dieu. Alors bon, vous vous dites, bon, j'ai pas envie de juste m'imaginer la vie du croyant comme un poisson qui fait quelques sauts pour remonter du courant. Ça m'inspire un peu, mais pas tant que ça quand même. Et c'est vrai que, voilà, Dieu nous appelle à aller à contre-courant, mais il nous appelle à chercher à décrocher les étoiles. Quand je pense à la vision que Jésus a donnée à ses disciples avant de partir, c'est une vision grande comme le monde. Faites des disciples de toutes les nations. Enfin, tu peux pas avoir une mission plus grande que ça. Avec une puissance plus grande que celle-là non plus, le Saint-Esprit qui nous a donné. Je me souviens souvent de la promesse que Dieu fait à Abraham. Il dit, essaie de compter les étoiles. Tu veux savoir comment je vais t'utiliser, avec quelle grandeur je vais t'utiliser ? Essaie de compter les étoiles. Vous avez déjà essayé ? Plus nos yeux s'habituent à la noirceur, plus il y a d'étoiles. Et en fait, on ne peut pas, il y en a trop. Et Dieu dit à Abraham, ça c'est le nombre d'âmes que je vais bénir au travers de ton obéissance. Dieu, il a envie qu'on décroche des étoiles. Et aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous voulez que votre vie compte. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes venu à l'église parce que vous voulez que votre vie ait un sens. Vous voulez que votre vie fasse une différence. Vous voulez que Dieu soit manifesté dans votre vie. Et c'est une bonne chose d'être ambitieux pour Dieu, parce qu'on a un grand Dieu. On l'a chanté. Ça fait tellement bien de chanter la grandeur de Dieu. On a un grand Dieu. Si vous avez des grandes attentes, des grandes ambitions, vous avez raison. Parce que nous avons le Dieu de l'impossible qui nous appelle à miser haut par la foi. Je vous invite à lire avec moi aujourd'hui en Matthieu chapitre 17. Nous allons regarder des versets 14 à 20. Un passage que nous connaissons bien, la foi qui bouge les montagnes. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 17, versets 14 à 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Je vous invite à prier avec moi. Oui, Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Ta parole qui ne revient jamais à toi vide, sans avoir accompli ta volonté. Et je te prie encore ce matin de nous nourrir par ta parole, de nous donner envie de booster notre foi, de se rapprocher de toi, de vivre avec plus d'intensité notre communion et notre vie chrétienne. Ô Père Céleste, donne-nous d'être résolus, pas parce que nous avons une grande foi, mais parce que nous avons un grand Dieu. Et c'est en lui qu'on place notre confiance ce matin. Amen. La foi nous permet d'accomplir l'impossible, c'est le message que Jésus communique à ses disciples. Et là, au moment où Jésus parle, il vient de descendre de la montagne où il a été transfiguré. Enfin, c'est un des moments les plus épiques du Nouveau Testament. Jésus, il y a son éclat qui se transforme, il est lumineux. Il y a Élie et Moïse qui apparaissent à côté de lui. Il y a Pierre qui n'arrive pas à trouver deux syllabes logiques l'une après l'autre. Il est ébahi de cette grandeur. Et là, il descend de la montagne et on voit une des scènes les plus inconfortables du Nouveau Testament. Un truc vraiment bizarre où les disciples... Ils agissent et on a l'impression qu'ils font quand même le bien parce qu'ils sont dans le ministère et Jésus va leur rentrer dedans et ça nous met inconfortable. C'est une scène un peu confuse. Et on se demande presque pourquoi est-ce que Jésus il est si violent avec la foule et avec ses disciples. Et Jésus lit les cœurs et on va comprendre pourquoi. Dans cet événement, on va voir que les disciples agissent au nom de Dieu, mais qu'ils n'ont pas de foi. Et Jésus leur dit, mais il n'y a aucun futur pour mon Église dans cette direction-là. De prétendre agir en mon nom et d'avoir pas de foi. Jésus leur rentre dedans parce que ce n'est pas l'Église qu'ils souhaitent, c'est la dernière chose qu'ils désirent. Il va voir certaines des paroles les plus violentes que Jésus donne à ses propres disciples. Et dans ce passage, il va leur apporter trois instructions sur la foi vivante, sur la foi qui mise l'impossible. La foi vivante est à contre-courant de la pensée du monde. La foi vivante ne se base pas sur nos propres forces. Et la foi vivante ne recule pas devant les obstacles. Et Jésus, il n'est pas là juste pour casser les disciples, loin de là. Il est là pour les instruire. On va le voir, il fait avec beaucoup d'amour. Et la première chose qu'il les enseigne, c'est que la foi vivante est à contre-courant de la pensée du monde. Je relis les premiers versets. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Donc on voit les disciples qui essaient de faire le bien et qui n'y arrivent pas. Jésus arrive en un instant, il guérit l'enfant. Et Jésus met en évidence deux manières avec lesquelles les disciples agissent comme des non-croyants plutôt que comme des croyants. Ils agissent avec la pensée du monde plutôt que la pensée de Dieu. Il va utiliser deux termes qui sont vraiment forts, l'incrédulité et la perversité. Alors les commentateurs, certains vont dire que Jésus s'adresse à la foule, pas à ses disciples. Mais deux fois, il va reprendre l'incrédulité. La première fois, probablement à la foule, mais je pense aussi aux disciples, parce que ensuite, en privé, il va aussi reprendre l'incrédulité des disciples. Des thèmes extrêmement forts, et on pourrait dire, mais Jésus, t'exagères pas un petit peu ? D'être aussi violent avec tes propres disciples, alors qu'ils essayent vraiment de faire le bien. Enfin, l'enfant, il a un problème, et les disciples sont là. C'est pas comme s'ils ignoraient la situation. Mais Jésus, qui voit les cœurs, sait que ses disciples, à ce moment-là, sont incrédules. L'incrédulité, c'est pas croire. Et ça, c'est la pensée du monde. Que Dieu, finalement, il est distant. Que Dieu, finalement, il n'intervient pas. Que Dieu, finalement, on peut vivre sans lui. Et les disciples sont en plein dans ce courant de pensée. Ils ne pensent pas comme Dieu pense, ils pensent comme le monde pense. Ils sont en train d'agir, mais ils ne s'attendent même pas à ce que Dieu intervienne. Et Jésus le voit dans leur cœur. Ils sont en mouvement, mais c'est un mouvement qui est vide, il n'y a aucune puissance derrière ça. Et Jésus va leur dire qu'ils n'ont même pas la foi d'un grain de moutarde. Un grain de moutarde, c'est 1 à 2 millimètres. C'est pas très gros. Et Jésus dit, vous avez même pas cette foi-là. Même pas cette foi-là. Leur confiance n'est pas en Dieu, elle est en eux-mêmes. Peut-être dans le fait qu'ils sont disciples de Jésus. Ils pensent avoir une certaine autorité, une certaine carrure, une certaine importance. Et la pensée du monde, c'est exactement ça. On met notre confiance dans ce qu'on voit plutôt que dans ce qu'on voit pas. On cherche la satisfaction immédiate, pas celle qui est éternelle. Et on vit dans un monde qui veut absolument, à tout prix, essayer de trouver un sens sans Dieu. D'arriver à faire les choses sans Dieu. Et le résultat, on le voit avec les disciples, ils ont un ministère qui est sans puissance. Un ministère qui porte aucun fruit. Par leur incrédulité, l'enfant il est condamné à continuer d'être jeté dans l'eau, d'être jeté dans le feu par le démon qu'il possède, probablement jusqu'à ce qu'il en meure. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie en Dieu, qu'il existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche. Sans la foi, c'est impossible d'être connecté à Dieu. C'est impossible d'œuvrer pour Dieu. Et là, c'est tout le drame, parce que les disciples sont supposés être ceux qui représentent Dieu. Ils ont été choisis par Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour porter son œuvre. C'est les représentants, et là, ils sont en train d'agir, et ils n'ont pas la foi. Et Jésus leur dit, mais c'est la dernière chose que je veux pour mon peuple. Que ses représentants disent, nous on est les représentants de Dieu. Enfin, c'est comme les pharisiens. On représente Dieu, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de puissance. Ce n'est pas que Dieu nous appelle à chaque fois qu'il y a un problème à le régler. Mais là, Jésus voit le cœur de ses disciples et il sait qu'il n'y a pas la foi. Le pasteur et écrivain célèbre, Andrew Murray, disait, faites attention dans vos prières. Plus que tout, de limiter Dieu, non seulement par incrédulité, mais aussi en vous persuadant que vous savez ce qu'il peut faire. Dieu peut faire tellement plus que ce qu'on s'imagine ou on pense. Mais tellement, tellement plus que ce qu'on s'imagine ou on pense. Je me souviens encore une fois d'être allé voir mon pasteur il y a quelques années. Je faisais un stage dans une église, c'était une grande église aux États-Unis, d'à peu près 800 personnes. Et une grande église, il y avait plus de 20 personnes avec un master en théologie parce qu'il y avait une faculté juste à côté et il n'y avait personne qui se convertissait de la communauté. Et je me souviens aller voir le pasteur presque en larmes en disant « Mais il n'y a personne qui se convertit. Les seuls baptêmes qu'on a, c'est des enfants qui ont grandi dans l'église, mais j'ai l'impression que on n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu. » Il me dit « Ah ouais, des gens qui se convertissent de la communauté, ah ouais, ça serait chouette. » Et là, j'ai le cœur qui est tombé en morceaux, c'est chouette. Enfin, c'est chouette comme quoi, comme ma fille qui porte un tutu rose et qui danse. Enfin, ça veut dire quoi? C'est chouette. On vit pourquoi? Alors, on contrôle pas forcément le fruit, mais quand on le voit pas, on se doit de plaider Dieu jusqu'à ce qu'on voit quelque chose, ou au moins toute notre vie d'essayer de poursuivre cela et de s'attendre à Dieu. Francis Chan disait: est-ce que je vais changer le monde? Probablement pas, mais je vais mourir en essayant. Quand on n'a pas d'attente vis-à-vis de Dieu, il ne faut pas s'imaginer non plus qu'il va nous utiliser. Je vais vous lire une citation de Spurgeon, et là c'est du Spurgeon, c'est assez intense. Il dit, « Oh, croyez-moi, si nous pouvions rouler tous les péchés dans une seule grande masse, si vous pouviez prendre le meurtre, le blasphème et l'adultère, la fornication et tout ce qui est vil, pour les unir dans une grande boule noire de corruption. Il n'égalerait même pas le péché de l'incrédulité. Ce péché est le monarque des péchés, la quintessence de la culpabilité, la mixture du venin de tous les crimes, le bas-fond du vin de Gomorrhe. C'est le numéro un du péché, la pièce maîtresse de Satan, le chef-d'œuvre du diable. Mais quand on ne pense pas comme Dieu, on devient inutile. On devient inutile. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. William Carey, l'un des premiers missionnaires britanniques, qui est parti en Inde et qui a lancé le mouvement missionnaire moderne au 19e siècle, disait « Attendez-vous à de grandes choses, tentez de grandes choses. » Le pasteur à qui j'avais parlé, son rêve c'était d'avoir une méga church qui grandissait finalement avec les gens des autres églises qui venaient. Et Dieu il a mis fin à cette œuvre. Quelques mois après qu'on a eu cette conversation, l'église a explosé, on est passé de 800 à 250. Jésus condamne l'incrédulité des disciples. Sans une foi ferme et vivante, ils ne peuvent rien faire. Puis deuxièmement, il va les reprendre pour leur perversité de pensée. Une fois de plus, c'est un terme qui est super fort. Il va leur dire, vos pensées sont perverses et sont tordues et ne sont pas appropriées. Ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Il emploie un langage fort, on pourrait penser que c'est trop intense. Mais Jésus sait exactement quand une personne pense comme Dieu et quand une personne ne pense pas comme Dieu. Et là, il y a un détail qui me marque dans ce récit. Qui c'est qui vient voir Jésus pour le plaider de guérir l'enfant ? C'est le Père. Pourtant, qui c'est qui a leur relation privilégiée avec Jésus ? Alors, bien sûr, on ne peut pas lire entre les lignes dans un texte comme ça, mais c'est une situation qui est quand même bizarre. Il y a les disciples qui sont les accompagnateurs de Jésus, qui sont avec lui, qui ont cette relation privilégiée. Et là, il y a un enfant qui est en danger de mort. Et il se dit, bon, on a essayé, c'est pas grave. Ils n'ont pas cette attitude d'humilité, de dépendance, ce cri de détresse comme ce père va avoir. De venir vers Jésus, il dit, Jésus, j'ai besoin de toi. C'est comme si les disciples, il y a un match de foot et ils sont 7 au lieu d'être 11. Enfin, 8 au lieu d'être 11. Et sur le banc de touche, il y a Messi, il y a Cristiano Ronaldo et il y a Neymar qui disent, moi, je peux venir. Et les disciples disent, on n'est pas au complet, on abandonne, c'est pas grave. Il y a Jésus qui arrive et ils se disent, on a essayé, au moins on a gardé l'apparence de gens qui font le ministère, qui essayent, qui sont présents, on a été dans cette situation et pourtant il n'y a pas de puissance. Et Dieu va condamner ça, de prétendre agir au nom de Dieu, mais sans la puissance qui les accompagne, c'est la dernière chose que Dieu souhaite pour son Église. Et Jésus voit le cœur de ses disciples, que leurs motivations ne sont pas saines. Peut-être c'est de l'orgueil, ils pensaient pouvoir par eux-mêmes sauver l'enfant. Ils ont échoué, ils ont trop honte d'aller voir Jésus. Même peut-être jusqu'à laisser cet enfant dans cet état-là. Peut-être ils se disent, c'est l'intention qui compte. Au moins on a essayé, on a rempli notre rôle. Et Jésus va les reprendre durement pour ça. C'est pas assez juste de jouer le jeu du chrétien. Soit on a la foi et Dieu est avec nous, ou soit ça sert à rien. Il y a un proverbe qui dit « Nous avons tendance à juger les autres par leur comportement et nous-mêmes par nos intentions. » Ouais, j'avais des bonnes intentions, donc c'est bon, je suis bien. À un moment, j'ai eu le désir de faire le bien, donc ouais, ça va, je peux me réconforter avec ça. Jésus coupe au cœur du problème. Si tu dis chrétien et tu ne fais pas la différence là où tu es, c'est que tu es à côté de la plaque et que tes motivations sont perverses. C'est dur comme parole, mais une fois de plus, les disciples, c'est ses représentants. Et Dieu ne peut pas se permettre que ses représentants sur terre aient une pensée qui soit mondaine. Soit on pense comme Dieu et on est le représentant de Dieu, soit on pense comme le monde et on n'est pas les représentants de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est possible que Dieu soit présent quelque part sans qu'on le ressente ? Si je vous disais par exemple qu'avant de venir ici, j'ai été renversé par un poids lourd, est-ce que vous me croiriez ? Qu'est-ce qui se passerait si j'avais été renversé par un poids lourd ? Je pense que mon visage serait peut-être un peu plus tordu, mes vêtements un peu plus froissés, j'aurais une jambe peut-être de l'autre côté de la pièce, un impact grand comme ça, ça laisse des traces. Et de dire j'ai rencontré le Dieu créateur de l'univers et, et ça n'a rien fait dans ma vie, non mais c'est n'importe quoi. Se dire qu'on porte Dieu en nous sans briller là où on est, enfin, c'est de reléguer Dieu au rôle d'une petite statue qu'on met dans un coin. Si notre Dieu est réellement le créateur de l'univers, le sauveur des âmes, le Dieu tout-puissant, le prince de la paix, et si on le porte en nous, bah alors ça doit faire la différence. Dieu ne donne pas son Saint-Esprit simplement pour qu'on ait des bonnes intentions. Dieu nous donne son Saint-Esprit pour qu'on soit rempli de puissance. La foi vivante ne pense pas comme le monde pense. Elle est un but de foi. Elle vise l'impossible. Et la foi vivante ne se base pas non plus sur nos propres forces. Je relis les versets 19 et 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Dieu, il disait à ses disciples, tout ce qu'il vous fallait, c'est une petite foi. Parce que finalement, on n'a pas besoin d'une grande foi, on a juste besoin d'un grand Dieu. Et le grand Dieu, il est là. Pour accomplir l'impossible, ce n'est pas la grandeur de notre foi qui permet d'accomplir l'impossible, c'est la grandeur de notre Dieu. Et même si on a une petite foi dans ce grand Dieu, ben on va pouvoir faire des grandes choses. Mais là, le problème des disciples à cet instant, c'est qu'ils n'ont même pas la foi d'un grain de moutarde, même pas la foi d'un millimètre. Leur confiance, elle est en eux-mêmes, elle n'est pas en Dieu. Peut-être que, voilà, je disais, en tant que disciple, on a une relation privilégiée avec Dieu, donc voilà, on a déjà ce tampon, donc on peut y aller. Peut-être que ce qu'ils pensaient, c'était que, voilà, ce qui comptait, c'était surtout d'essayer. Pas nécessairement de réussir. Ils se sont retrouvés à essayer de faire l'œuvre de Dieu, mais sans dépendre de Dieu. D'œuvrer pour Dieu, mais de ne pas œuvrer avec Dieu. Alors j'ai un ami qui est missionnaire, et avant il était pasteur, maintenant il voyage dans les 5 continents pour former des gens, former des églises. Bon, vous le connaissez, c'est Florent Varac qui était là l'année dernière. Et il me dit, une des choses les plus frappantes quand je voyage, c'est que souvent on voit des églises qui sont tellement investies à faire des choses pour Dieu. On va organiser des cultes, on va faire des événements, on va suivre des traditions, on va faire tellement de choses. Et on les fait pour Dieu, mais des fois on oublie de les faire avec Dieu. On les fait parce qu'on sait que c'est les choses chrétiennes qu'on fait, mais c'est pas un but de foi, c'est pas un but d'ambition, c'est pas un but de cette attente que Dieu intervienne. Enfin, je ne sais pas, ce matin, quand vous êtes venus, c'est quoi vos attentes? Quelles sont nos attentes quand on va dans un culte? Est-ce qu'on prie que Dieu construise son église? Est-ce qu'on prie que Dieu se manifeste? Est-ce qu'on prie que Dieu change nos cœurs? Est-ce qu'on prie que Dieu intervienne? Ou est-ce que finalement, on se dit, bon, c'est un dimanche, c'est comme un autre dimanche, enfin, ça, voilà, à la semaine prochaine. Et Florent, il me disait, partout où on voit des églises qui travaillent dur, qui planifient des événements, des cultes, des programmes, qui sont actifs pour faire tourner les églises, faire fonctionner la machine, préserver les valeurs, les traditions. Mais souvent, il manque quelque chose. C'est pas vrai? Souvent, on va dans des rassemblements chrétiens, on va dans des et il manque quelque chose. Parce qu'on est en train de faire des choses pour Dieu, et on sait c'est quoi. Enfin voilà, on ouvre la Bible, on chante des chants, et on sait que c'est ce qu'il faut faire. Mais on n'a même pas demandé à Dieu de venir intervenir et de nous saisir par son Saint-Esprit. Et on va à l'église, le programme se déroule, et il n'y a pas d'intincelle, il n'y a pas de conviction du Saint-Esprit. Il n'y a pas de joie manifeste, comme Jésus l'a promis à ceux qui le suivent. Et à la fin de la journée, on se souvient peut-être du programme, mais on n'est peut-être pas plus proche de Dieu. Alors c'est frappant parce que quand Jésus il a choisi le mot église, ecclésia en grec, l'ecclésia, c'était un rassemblement pour le travail. Dans la culture grecque, le ecclésia, alors il y avait des rituels religieux aussi, parce que voilà, les gens étaient très religieux, mais l'ecclésia, c'était le rassemblement pour accomplir du travail. Et c'est vrai que l'église, c'est un lieu de travail. C'est pas un centre de vacances, c'est pas un club social, c'est pas un amphithéâtre universitaire où on prend des notes et on vient, on prend des notes et on part. Dieu nous appelle dans son église pour bosser. On a du travail à en faire, de s'encourager, de former des disciples. De s'encourager les uns les autres, de se nourrir les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. Et en pratique, c'est vrai que c'est facile d'être occupé à travailler pour Dieu, mais souvent on oublie de le faire avec Dieu. C'est quand même une question assez troublante de dire, est-ce que j'ai vraiment amené Dieu avec moi dans mes activités chrétiennes? Est-ce que je suis venu avec la foi que le Dieu que je porte, il est vivant? Et que le Dieu que j'entends, il est vivant? Et que le Dieu que je loue, il est vivant? C'est une question troublante, mais une question qu'on doit se poser. Et une fois de plus, on n'est pas au contrôle du fruit que Dieu va donner, mais pour moi, je me dis, si je ne vois pas de fruit, ben, je vais plaider jusqu'à ce que je le vois. Comme cet homme qui priait pour un réveil au Pays de Galles, et pendant 10 ans, toutes les semaines, il priait pour un réveil, jusqu'à ce que le réveil éclate et des dizaines de milliers de personnes se convertissent. Un des versets qui m'a le plus impacté dans ma vie de chrétien, c'est Éphésiens 2:10. Paul résume l'évangile en disant, voilà, c'est la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et la première fois que j'ai compris ce verset, ça a bouleversé ma perspective de la vie chrétienne. Que finalement, ce n'était pas mes œuvres que je devais porter, mais des œuvres que Dieu avait déjà créées d'avance. Et Dieu m'appelle à porter ses œuvres à lui. Pas des œuvres que moi j'essaie d'inventer, mais ses œuvres à lui, au Dieu vivant. C'est ses œuvres à lui que Dieu nous appelle à porter. Il a déjà inventé les œuvres qu'il souhaite qu'on fasse. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à demeurer en Christ. En Christ, on peut faire ses œuvres par la foi, en dépendant de lui. La différence entre les œuvres de Dieu et les œuvres des hommes, elle est tellement fulgurante. Et des fois, j'aime juste regarder ou étudier les merveilles de la création et juste regarder mais qu'est-ce que Dieu fait quand il touche quelque chose. Quand on regarde, par exemple, la planète Terre, 12 000 km de diamètre, mais c'est rien comparé au Soleil qui lui en fait 1 400 000. En fait, à l'intérieur du Soleil, on pourrait mettre 1 300 000 planètes Terre. C'est juste énorme. Mais le Soleil, ce n'est pas la plus grosse étoile. Quand on regarde dans la galaxie, il y a des étoiles qui sont dans la gamme au-dessus, les géantes rouges, pas une étoile jaune comme notre Soleil, qui sont bien, bien plus volumineuses. Une de ces étoiles, l'étoile Betelgeuse, fait 160 millions de kilomètres de diamètre. Si on prenait cette étoile et on la plaçait à la place du Soleil, la Terre ne serait plus en orbite, elle serait à l'intérieur. Et Mars aussi. C'est tellement énorme. À l'intérieur de cette étoile, on pourrait placer 1 500 000 soleils, plus de 200 milliards de planètes Terre. Dieu, il a créé ça en un instant. Et puis pareil, quand on regarde les détails du corps humain, notre corps, il est composé de milliards et de milliards de cellules. Alors, c'est impossible scientifiquement de compter toutes les cellules. Les estimations varient entre 15 et 75 billions. Et chacune d'elles fait près de 100 billions d'atomes. C'est des chiffres qui sont un petit peu difficile à comprendre. Par exemple, si chaque cellule de notre corps était un Lego, sur la base de voilà moyenne de 500 billions de cellules, on aurait assez de blocs pour construire plus de 3 millions de Millennium Falcon en taille réelle, pour les fans de Star Wars. Et ça, c'est que les cellules à nous, parce que dans le corps humain, il y a plus de cellules de bactéries que de nos cellules à nous. Enfin, c'est juste l'œuvre de Dieu, c'est juste hallucinant quand il y réfléchit. Les cellules à la surface de la... Enfin, non seulement le corps humain fait de milliards de cellules, mais elles sont constamment en train de se reproduire. Les cellules à la surface de la peau ne vivent pas plus d'un mois. Entre 30 000 et 40 000 de ces cellules meurent chaque minute. À la fin de ce culte, vous auriez perdu plus de 1 million de cellules de peau qui ont été renouvelées. On se lave les mains, hein. Mais l'œuvre de Dieu, c'est tellement grandiose. Un ouragan dégage plus d'énergie que 10 000 bombes nucléaires. Et Dieu, il a fait des choses mais tellement merveilleuses. Des papillons qui ont 12 000 yeux, des araignées dont la toile est plus dure que le fer, des pingouins qui sautent 2 mètres de haut, des escargots qui peuvent dormir pendant 3 ans. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les œuvres des hommes à l'œuvre de Dieu? Et là, on parle juste de la création. L'œuvre que Dieu fait dans le cœur est encore plus grande quand il transforme des cœurs de pierre en cœurs de chair. Et Dieu il a tellement de belles choses pour nous. Alors des fois on me dit, ouais, mais toi t'es jeune, t'es optimiste, tu vas voir, dans quelques années tu seras désillusionné. Il dit, ouais, bah, on va penser à l'apôtre Paul. Lui, il est en tôle, il est vieux, enfin bon, d'accord, je sais pas à quel âge on commence à s'appeler vieux de nos jours, mais il est à la fin de sa vie et à chaque phrase qu'il donne, il y a 5 superlatifs. Quand Paul parle de l'œuvre de Dieu, en Éphésiens 3, 20-21, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui ça la gloire. Où ça? dans l'église. Paul, il est en prison à la fin de sa vie, il est persécuté, il en a bavé, mais il a vu Dieu à l'œuvre, il dit, mais c'est trop génial. Et j'en veux encore. Une des manières pratiques que j'essaie de vivre ça dans mon église, c'est qu'une fois par semaine, on jeûne pour l'église et pour le culte. Et on est avec un petit groupe d'amis, au lieu de manger le jeudi midi, on passe un temps à prier, juste à plaider Dieu, mais Dieu intervient dans notre culte ce dimanche. Et moi, ma résolution personnelle, c'est jamais aller dans un culte sans plaider que Dieu intervienne. Sinon, ça sert à quoi ? Enfin, on suit une routine et on perd des opportunités magnifiques que Dieu nous donne. Oswald Chambers disait « La prière ne nous prépare pas pour les grandes œuvres, la prière est la grande œuvre. » Quand on dépend de Dieu, ben, Dieu agit. Alors c'est rigolo, ma mère, il y a quelques années, lisait ce passage. Et on avait un grand arbre de 4 mètres de haut dans notre jardin qui était mort. Et mon père est pasteur avec 6 enfants super occupés. Il se dit « Bon, voilà, je lis Dieu que je peux déplacer les montagnes. Dieu, mon mari, il n'a pas le temps de s'occuper de cet arbre, je te prie de l'arracher. » Le lendemain, une tempête, l'arbre complètement déraciné, allongé par terre. Juste dans la simplicité de la foi, elle avait lu ce passage, elle a prié et Dieu est intervenu. Alors bien sûr, Dieu ne répond pas toujours à nos prières de la manière dont on pense, mais on a un grand Dieu et on doit tenter des grandes choses. Finalement, Jésus va nous dire dans ce passage que la foi vivante ne recule pas devant les obstacles. Elle ne recule pas devant les obstacles. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui disant en privé, pourquoi n'avons-nous pu pas chasser ce démon ? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Quand on fait face à des obstacles, on a deux choix. On reste sur place, soit on les surmonte. Et la foi, bah, c'est l'outil que Dieu nous a donné pour surmonter les obstacles, pour apprendre, pour booster notre foi et pour se dépasser. Les obstacles, c'est des opportunités pour qu'on puisse nourrir notre foi et qu'on découvre à quel point Dieu est encore plus puissant que toutes ces épreuves et tous ces obstacles. Jésus, son désir pour nous, c'est qu'on rêve et qu'on se dépasse en permanence de progrès en progrès. Et ça, c'est le langage de la Bible. Enfin, un des versets que j'aime énormément, c'est en Jean chapitre 14, quand Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et les résultats, on les voit juste quelques chapitres plus tard. Jésus, quand il part, il y a 120 chrétiens qui se réunissent. Le groupe, il est tout petit. Et puis le Saint-Esprit vient, Pierre prêche, il y a 5000 conversions. Dieu avait préparé des œuvres encore plus grandes pour ses disciples. Il nous appelle à les expérimenter par la foi, en dépendant de Jésus, par la prière. Et on a cette relation, mais tellement privilégiée de pouvoir prier Jésus et qu'il nous écoute et qu'il nous répond. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas très bon pour répondre aux prières. Ma femme, des fois, elle me fait des prières toutes simples. Hein. « Philippe, est-ce que tu peux sortir la poubelle ?» Et des fois, ça me prend du temps pour répondre à ses requêtes. Et là, Jésus nous dit « Mais tout ce qui est dans la volonté du Père, moi, j'ai envie de vous aider à l'accomplir, si vous me le demandez. » On a un être tout-puissant qui est à nos côtés. Une de mes citations préférées, Robert Murray McShane, disait « Si je pouvais entendre Jésus prier pour moi dans la salle à côté, je ne craindrais pas même un million d'ennemis. » Mais la distance ne change rien, il prie pour moi. Si Jésus était dans le bureau du pasteur, là, en train de prier pour vous, comment vous vous sentiriez ? Ça boosterait, non, de savoir que là, en ce moment, Jésus serait à côté en train de prier pour notre âme. Mais il est en train de le faire. En ce moment, nous avons un intercesseur auprès du Père qui est en train de prier pour nous. Ça ne booste pas notre foi, ça ? Tozer disait aussi, il y a déjà plus de 50 ans, le problème de base avec l'Église de nos jours est sa vision indigne de qui Dieu est. Notre religion est faible parce que notre Dieu est faible. Le christianisme que l'on vit sera soit fort, soit faible, suivant notre manière de percevoir Dieu. En fait, plus on accepte que Dieu est grand, plus on affirme que Dieu est digne, plus on va s'attendre à des grandes choses. Une de mes premières visions de l'Église, J'étais gamin, je devais avoir 7-8 ans. C'était un samedi matin, mon père était pasteur à Québec. Et on va à l'église le samedi matin, le bâtiment est en feu. Il y avait un homme qui avait jeté un cocktail Molotov dans le sous-sol. C'est une église en bois et le sous-sol était parti en fumée. Il y avait des pompiers, il y avait la police. C'est un des premiers souvenirs de l'église. Et je me souviens, pendant un an, il y avait l'odeur de la fumée. Enfin, ça nous avait quand même assez marqué. Et pourtant, on essayait de payer un bâtiment. Il y a un gars qui arrive, jette un cocktail Molotov. L'assurance nous paie 120 000. On fait tous les travaux en 20 000. On achète le bâtiment. Et là, tu dis, qui c'est qui gagne? On l'a chanté ainsi, Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu, il gagne à chaque fois. Dieu, il gagne à chaque fois. Dieu peut facilement déplacer les montagnes. Nous, par nos propres forces, non, on n'y arrive pas. Enfin, un caillou à la fois, ça prend du temps. Mais Dieu, il est tout puissant. Dieu permet ces obstacles dans nos vies pour qu'on les surmonte. Je vous parlais un petit peu de mon épouse ce week-end. Mon épouse, elle a une maladie auto-immune, ce qui fait qu'elle a à peu près à 50% d'énergie d'une personne normale. Et quand je l'ai rencontrée, elle était en chaise roulante parce qu'elle ne pouvait même pas supporter le poids de son propre corps. Donc, maladie auto-immune, c'est que son corps surréagit à son environnement. Donc, ses pieds devenaient bleus alors qu'elle ne faisait même pas 45 kilos. Et je me souviens la voir à l'église, chanter tout son cœur, essayer d'encourager les gens. Et je me suis dit, si y a une fille qui est comme ça quand ça ne va pas, mais qu'est-ce que c'est quand ça va bien? Et Dieu permet des épreuves dans nos vies pour qu'on les surmonte et que notre foi en devienne encore plus forte. Et quand on arrive à ces obstacles, et au lieu d'être frustré, au lieu d'être en colère contre Dieu, au lieu d'abandonner, de dire « Dieu, avec toi, je vais y arriver », on devient plus fort. Et puis après, on demande plus parce qu'on sait que Dieu peut faire plus. C'est ce que Paul disait, je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, parce que quand je suis faible, je suis pauvre. Philip Brooks du 19e siècle disait aussi, ne priez pas pour des vies faciles, priez pour être fort. Ne priez pas pour des tâches égales à vos forces, priez pour des forces égales à vos tâches. Je pense souvent à l'histoire d'Élisée avec la veuve. Elle n'avait pas à manger, il lui dit, va chercher des vases, des récipients vides, et prends ton petit pot d'huile et déverse-les. Et des fois, je me pose la question, si elle avait amené plus de pots, est-ce que vous pensez qu'ils auraient été remplis? Elle a rempli tous les pots. Et je pense qu'avec notre foi, c'est pareil. Le nombre de pots qu'on donne à Dieu, il va tous les remplir. Mais des fois, on oublie de lui en donner plus parce qu'on ne pense pas qu'il a la force de les remplir. Je finis juste avec un de mes passages préférés dans la Bible. Moïse va jeûner pendant 40 jours. Et il revient, et il y a le veau d'or. Et il remonte... 40 jours encore de jeûne. Et Dieu lui dit, écoute Moïse, ça c'est un peuple courraide. Du coup, j'ai fait des promesses du pays promis, donc je vais donner le pays promis, mais je ne viens plus. Je vais vous envoyer un ange. Donc on fait un deal. Je vous donne le pays promis, mais moi je ne viens plus parce que votre peuple il est rebelle et je ne peux pas rester avec un peuple rebelle comme ça. Et c'est quoi la réponse de Moïse? Yes, pays promis, ok, bye bye Dieu, c'est bon, je prends. Non! Moïse, il plaide devant Dieu, il fait « Non, montre-moi ta gloire, c'est toi que je veux. C'est pas juste tes promesses, c'est pas juste tes bénédictions, c'est toi que je veux. Et je bouge pas avant que tu me montres ta gloire. » Et ça, c'est mon désir que ça soit votre résolution, que dans votre vie chrétienne, vous dites « Dieu, je bouge pas jusqu'à ce que je vois l'accomplissement de tes promesses. Je tiens ferme, je persévère jusqu'à ce que je vois ta gloire manifestée dans l'Église comme tu l'as promis. » Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu es un Dieu glorieux, un Dieu grandiose, un Dieu digne. Et tu mérites tout notre engagement. Tu mérites notre foi, tu mérites nos cœurs. Ô Père Céleste, renouvelle notre foi pour tenter de grandes choses pour toi. Donne-nous de ne pas être froid dans nos cœurs, de ne pas prendre à la légère cet appel de te représenter sur terre, toi le Dieu vivant. Donne-nous d'être remplis de ta puissance. Et je te prie, Père Céleste, pour... tous ceux qui sont présents ce matin, renouvelle-nous dans notre foi. Renouvelle-nous dans notre désir de vivre pour toi. En ton nom, on prie. Amen.